hasard, j'ai dans la main une photo. Il me semble qu'elle a été prise dans les jardins de l'Élysée. Je suis sur la photo entourée de plusieurs de mes camarades de l'époque et du maire d'Orly, Gaston Vien, l'ancien maire d'Orly, Gaston Vien. En fait, Edith Cresson était venue à l'époque, qui était ministre. Elle était venue à Orly et ensuite elle nous avait invités dans les palais de l'Élysée.
Et vous avez quel âge là ?
J'imagine que j'ai 13 ans, je pense, ouais. Avec une petite chemise blanche, un pantalon pince beige, je pense.
L'air très sage ?
Ouais, un peu trop gros pour moi le pantalon, je crois. Un peu large.
Asdine Zoghbi, vous avez toujours cette photo sur vous ?
Oui, je l'ai. J'ai d'autres photos de Kerry que je distribue au fur et à mesure parce que le temps est passé et puis il est tout à fait normal que ces photos soient remises aux personnes. Oui, comme disait Kerry, effectivement, Edith Cresson était venue. C'était vraiment une montre très fracassante puisqu'elle s'est posée avec son hélico sur l'oiseau pylône. Et puis tout de suite, on l'a emmenée à la MJC où Kerry et ses copains répétaient. Du coup, elle les a vus. Elle a été prise tout de suite d'affection pour ses petits genoux.
La MJC d'Orly où vous travaillez à
exactement,
l'époque.
Et puis Kerry dit « je suis sage ». En fait, vous voyez bien sur la photo qu'il est toujours devant. C'est le chef de bande, en fait. Ce que je dis souvent de Kerry, c'est « Little Big Man ». Il ne parle pas, mais tout le monde est à l'écoute. Et Kerry faisait partie, donc... De ces jeunes qui répétaient à la MJC. Je ne dis pas que la MJC a été, si vous voulez, la rampe de lancement, puisqu'ils se sont fait tout seuls dans la rue. Ce n'était qu'un coin de rassemblement où l'information circulait. Après, ils se débrouillaient à travers une salle, à travers... Et d'ailleurs, ils se calfeutraient dans la salle. Ils mettaient des papiers sur les vitres pour que personne ne puisse voir les pas de danse. Ils calfeutraient les portes pour que personne ne puisse entendre les paroles. Le rap était un monde de parano, voilà un petit peu à l'époque.
Et vous avez quel souvenir de Alix, 13-14 ans, là, comme on le voit sur la photo ?
Ben, il y a la photo, il y a Alix, honnêtement.
Alors Alix ?
Alix, ou voilà, moi, Kerry, ce que vous voulez. Ce qui était extraordinaire, c'est que dans une MJC, vous êtes tapé pour tout le monde. Et lui, c'était l'inverse, il est tout le temps en retrait. Il ne demandait jamais rien. Et puis, il était en retrait. Du coup, forcément, il attirait votre curiosité. Mais c'est quoi ce phénomène qui ne demande rien, qui était tout le temps en retrait ?
Et là, on entend l'instrumental d'un morceau. Ça commence comment, les paroles ? 22 décembre 1977 ?
28 décembre 1977.
Ah, pardon, 28.
28 décembre 1977, aux abîmes, je suis né d'une famille plus proche d'être pauvre. D'être fortuné, mes parents sont originaires d'Haïti, terre indépendante que mon cœur avait choisi pour pays la plupart de mon enfance. Je l'ai passé auprès de ma mère, je ne peux pas ne pas mentionner qu'elle a surmonté beaucoup de galères et qu'elle continue à ramer, trimer jusqu'à cette heure. Pourtant, sur une main, je peux compter le nombre de fois que je l'ai vue en pleurs.
To say that the number one greeting in my faith is peace, and that is assalamu alaikum, which means may peace be unto you.
Les poètes ne sont pas morts. Celui de ce soir est né dans un endroit qui s'appelle Les Abîmes et a grandi à 2001. Mais la romance s'arrête là. C'est un jour de 1977. Kerry James naît en Guadeloupe de parents haïtiens. À 14 ans, il habite déjà à Orly. Il décrit tout ce qui est hardcore et la liste est longue. Il rappe « Vous faire résonner tel est mon idéal, c'est normal si ça fait mal, c'est normal ça, la vie est brutale ». Depuis, ça fait plus de 20 ans qu'il écrit. Quand il regarde son passé, il sait qu'il a failli y passer. Il a esquivé la prison ou la mort, il a choisi le camp des vivants et la fierté. Il a dit « Je suis noir, musulman, banlieusard et fier de l'être ». Il a chanté « Le retour du rap français ». Il se méfie des nuages de fumée. Il a décidé que personne n'était condamné à l'échec. Sa foi lui a fait abandonner le slalom pour le chemin droit. Il y a alors toute une jeune génération aujourd'hui qui répond que les mots, c'est Kerry James qui leur a donné. Parfois, il a besoin de prendre des pauses. Il dit « J'arrête ». Personne n'a envie d'être un porte-parole, mais la parole, s'il faut la porter comme sa croix, il revient. La parole, il la prend, elle a tout son poids, il la soulève et il la pose là. Il date, on a un calendrier commun. Il y a eu l'après 11 septembre, l'après 2005 ou l'après 13 novembre. Dans l'après, il fait travailler le langage, il refait le film. Il commence des phrases par « si c'était à refaire ». Il sait que rien n'est à refaire, mais que tout est à écrire. Il y a deux France et Kerry James veut appartenir aux deux. Ultime provocation, il ne sacralise ni la banlieue ni l'ailleurs. Il se place au milieu et il revendique tout le territoire. Il se sent une responsabilité, comme s'il disait « Ok, la parole, il faut l'occuper sinon on se la fait prendre. Il faut l'occuper sinon d'autres la gâchent, l'abîment. Et les poètes, ça n'aime pas qu'on gaspille les mots. » Il est là parce que trop d'inconscients s'emparent du micro. Il met à terre ceux qui se prennent pour des gangsters et ceux qui seraient tentés de mettre une cravate et d'écraser discrètement le mot « multiculturel ». Le 1er avril 2009, il écrit une lettre à son public, signée de la main du poète noir, Kerry James, le mélancolique. Il dit « J'ai honte de ne pas être celui que vous admirez ». Il écrit pour dire « Je ne suis qu'un homme ». Et ça fait du bien d'entendre ce que plus aucun homme public ne dit « Je ne suis pas un héros, mais j'ai une certitude, on ne va pas gaspiller les mots ». Kerry James réveille la langue, la nôtre, et il la sauve. Les poètes ne sont pas morts.
Je garde les traces de mon pain. C'est.
Je t'assure, je garde les traces de mon passé. Ces choses qu'on ne pourra plus jamais effacer. Je t'assure, je garde les traces de mon passé. Ces choses qu'on ne pourra plus jamais effacer. Je t'assure, je garde les traces de mon passé. Ces choses qu'on ne pourra plus jamais effacer. Je t'assure, je garde les traces de mon passé.
Il y aura donc Kerry James, Alix Mathurin pour l'état civil, arrivé à Orly dans le Val-de-Marne en 85. Il a alors à peine 8 ans et se retrouve en pension avec sa sœur, puis dans un appartement 30 mètres carrés. Puis vient sa voix, vers 14 ans, le rap et le succès. 20 ans plus tard, son dernier disque et 8e album solo s'appelle Muhammad Alix. Il y aura en studio Asdine Zoghbi, qui a connu Kerry à la MJC d'Orly et qui est membre aujourd'hui du jury de l'ACES, son association qui soutient les études de jeunes des cités. Kerry James prépare un film et a imaginé une pièce de théâtre à vif. Ce sera une joute verbale pour répondre à la question « L'État est-il seul responsable de la situation actuelle des banlieues ?» Kerry James est en studio avec son clavier Nicolas Segui pour deux morceaux. C'est une vie d'artiste sur France Culture, une vie qui ne gaspille pas les mots et qui commence par dire « Pose le micro, mon rap vient de mes entrailles. »
Faire des tubes sans contenu, je peux pas, je laisse ça à Shaggy. Depuis mes premiers textes, je me suis opposé à l'État. Entre le système et moi, ça a toujours été la vendetta. Insubordonné, j'ai toujours été dans le combat. Avant de faire du rap, je faisais du raga. Rappelle-toi, je disais, je ne veux pas aller au service militaire. Pour eux, je ne veux pas faire la guerre pour un morceau de terre. Puisque mes textes ont du contenu, je peux les rapper a cappella, doucement, balance le charlet, que je fasse vibrer les favelas, maintenant, fais péter la caisse claire, même si c'est pas du dirty, c'est du sale rap révolutionnaire, yeah, c'est le retour du rap français qui pousse les frères à penser, progresser et avancer.
Pour parler d'écriture, Kerry James, j'avais envie de commencer par la voix de Lionel Trouillot, écrivain haïtien.
Si on va vers la recherche du texte littéraire, c'est parce qu'il y a quelque chose en vous qui a besoin de s'exprimer par cette voie-là. De notre côté, je viens d'un pays dans lequel la littérature a toujours servi à exprimer les révoltes collectives, les propositions collectives. Souvent, nous disons, nous, à Port-au-Prince, que les véritables sociologues, anthropologues économistes haïtiens, ce sont les écrivains, comme si parce qu'il y a un déficit de propositions politiques, parce qu'il y a un déficit de travaux en sciences humaines, on dirait que la littérature a pris sur elle, et la poésie d'ailleurs plus que le roman, on dirait que la littérature a pris sur elle d'exprimer la situation collective, les inquiétudes et les espérances. Donc écrire, c'est un peu être conscient de cet enjeu-là qui est un enjeu social extrêmement important, au-delà du plaisir personnel qu'on prend à se livrer au jeu littéraire en tant que tel.
Carrie James, c'est vrai que ça vous aurait plu aussi, journaliste ou avocat ?
Exactement, ce sont deux métiers que j'aurais aimé faire. Mais finalement, ce sont deux métiers que je pense avoir exercé dans ma musique. J'ai été à la fois avocat, des gens que je prétends défendre et représenter, procureur parfois aussi dans des morceaux comme Lettre à la République, et journaliste aussi, puisque j'ai parfois décrit des situations que les gens ignoraient, j'ai mis des mots sur des sentiments, tout ça. Donc ce sont deux métiers que je pense exercer à travers ma musique, ouais.
Parce que Lionel Trouillot la disait, l'écriture, la littérature, c'est pour parler d'une situation collective, pour moi. Est-ce que Azdine Zoghbi commençait l'émission en disant que vous étiez pas forcément très bavard quand vous étiez enfant, mais est-ce que les mots, ils sont venus rapidement quand même? Est-ce que l'écriture, elle était là?
En écoutant, ça m'a fait penser à un texte qui s'appelle « Je m'écris ». Mon couplet commence ainsi, je dis « Si je ne pouvais écrire, je serais muet ». Condamné à la violence dans la dictature du secret. Submergé par tous ces sentiments sans mots, je m'effacerai comme une mer sans eau. Et donc c'est vrai que moi, dans la vie courante, je parle très peu et que tout est dans mes chansons. Alors des fois, je suis hyper gêné quand les gens, je rencontre des gens qui me disent « Ouais, j'ai envie de passer un moment avec toi pour mieux te connaître ». Et j'ai envie de dire, mais t'en sauras pas plus que ce que j'ai dit dans ma musique. Au contraire, je vais parler beaucoup, beaucoup moins. Et donc voilà, c'est vrai que j'ai écrit comme ça parce que je suis pas... Mais c'est une tradition familiale. Même mon père est comme ça. Et mon père, quand il était... quand mon père avait quelque chose à nous dire, mon père écrivait des lettres. Jamais mon père nous réunissait comme ça dans un salon pour nous dire quelque chose. S'il avait quelque chose à nous dire, il l'écrivait par un courrier, quoi. Voilà.
D'ailleurs, il y a la lettre, on sent que c'est important parce qu'il y a lettre à la République.
Lettre à la République, lettre à mon public.
Parce qu'on ne s'envoie plus de lettres aujourd'hui, justement.
Ouais,
c'est quelque chose qui disparaît, mais.
Ouais, c'est vrai. Non, mais je pense que c'est. On est la somme d'un héritage. Familial, et des fois on se rend pas compte de certaines choses. Ce rapport à la lettre, j'ai pu le faire parce que je suis en train d'écrire une autobiographie et ça m'est revenu. Mais il y a des choses qui se font naturelles. Enfin, on croit qu'elles sont naturelles, mais elles ont une origine, voilà.
Et vous avez des souvenirs des abîmes? En Guadeloupe.
La Guadeloupe.
C'était les 6-7 premières années.
J'ai comme ça une image. Il y a un truc important, c'est que j'ai assisté à un tremblement de terre en Guadeloupe. Et je pense que ça m'a marqué, parce que par exemple, aujourd'hui, quand je regarde des fissures, ça me fait tout de suite la chair de poule. Et parce que je pense que j'ai vu la terre se fissurer. Je me rappelle avoir été mordu par un chien, parce qu'il y a des chiens qui errent comme ça en bande. D'ailleurs, j'ai toujours la marque sur la main. Sinon, j'ai plus trop de souvenirs.
Ouais. Et Haïti, ça représentait quoi alors? C'était un peu une terre légendaire.
Haïti, j'ai été qu'une fois quand j'étais très jeune. Mais par contre, mon père a toujours essayé. De faire en sorte que je sois attaché à Haïti. Et donc, il m'offrait des bouquins sur l'histoire d'Haïti, sur Toussaint l'Ouverture. Et donc voilà, j'ai toujours eu cette attache avec Haïti et puis cette fierté que ce soit le premier pays noir à avoir proclamé son indépendance.
Est-ce que c'est facile d'arriver à Orly, justement à 7-8 ans, quand on vient de si loin ?
Non, c'est pas facile, parce que je suis arrivé donc de Guadeloupe en 1985, je crois que j'ai atterri à Orly, et comme je le dis, dans 28 décembre 1977, le temps était gris. Déjà, c'est la première chose qui m'a choqué. Je comprenais pas ce qu'on venait faire là. Je venais du soleil, il faisait gris, il faisait froid. Et c'est vrai que moi, j'ai eu plusieurs intégrations, quoi. Il a fallu que je m'intègre à la banlieue et à la cité, et je l'ai fait principalement à travers la musique. Voilà.
Asdine Zoghbi, est-ce que vous vous souvenez des premières fois à la MJC d'Orly de l'enfant Alix ?
Comme je vous le disais tout à l'heure, il était tellement discret que si on ne regardait pas attentivement les recoins, on ne le voyait pas. En plus, il était petit de taille. Donc, il ne demandait jamais rien. Il avait un regard distancié sur les choses, y compris sur... Je me souviens d'une image, enfin, je l'ai gardée, cette photo. Il était accoudé à une porte bleue du dojo et il regardait les breakdanceurs qui, c'était Kerry James avec une casquette à moitié qui lui cachait les yeux. Il était tout petit, regardez.
Moi, c'est Alix, alias Kerry, le penseur des rebelles. J'ai qu'une passion, c'est le rap.
Yeah, it's a Junior on the microphone. La vie est brutale.
Well, on envoie un message.
La vie est brutale. Ce dont je viens de parler est un sujet important. Souvent délaissé par des gens indifférents. Nous sommes dans l'an 2000, pourtant ce n'est pas si facile. Des gosses crèvent de faim et vivent dans les bidons fil. Comment peut-on t'accepter dans cette société? Ce n'est une égalité, une telle cruauté. Des gosses délaissés dans les ronds de tous les états. Poussés à voler et pourchassés comme des rats. Pourtant ils ne le sont pas, non. Ce sont des êtres intelligents. La vie ne leur a pas offert la richesse et l'argent. L'argent, le fric, la thune, le pognon. C'est avec ça qu'on est bien vu dans le monde où nous vivons. Mais les enfants dont je vous parle n'ont pas eu de chance. Ils souffrent en silence, leur espérance n'est pas immense. Il faut comprendre que leur vie n'est pas la vie idéale. Trouvez-vous ça normal? Que leur vie soit brutale. La vie est brutale. Brutale. La vie est brutale.
Le sang comme la journée. Ça c'est Idéal J, Kerry James.
Oui, comme Junior, Idéal Junior, on avait 13-14 ans.
Premier groupe.
Premier groupe et premier disque sorti en 1992, un maxi qui s'appelait La vie est brutale. Voilà. Qu'on a sorti après avoir rencontré des producteurs qui se sont dit. Il y avait un groupe à l'époque de jeunes rappeurs américains qui s'appelait Criss Cross, qui avait fait un carton avec un morceau qui s'appelait Jump. Et ils se sont dit, ah ouais, avec ces petits-là, on va faire les Criss Cross français. Mais bon, ça s'est pas passé comme prévu. Voilà.
Et comment on prend conscience de la pauvreté, du ghetto? Parce que très tôt, vous parlez de ça, et la vie, elle est brutale, vous avez 13-14 ans.
Alors, je pense qu'il y a une part quand même de reproduction dans le sens d'imitation. Parce que j'avais des mentors. J'avais notamment Manuquet, qui était un grand de chez moi, qui avait un groupe qui s'appelait le Possi Idéal. Et c'est pour ça que nous, on s'appelait Idéal Junior. On était les petits de Manuquet, du Possi Idéal. Et eux, ils faisaient déjà du rap engagé avec des vrais thèmes. Ils s'intéressaient aux choses, au monde. Et je pense aussi que j'ai écrit ces choses-là parce que je les ai aussi un peu imitées. Et mais après, j'y ai vraiment cru, moi. Voilà.
Et après, justement, comment ça... Est-ce que c'est la pression du groupe aussi? Comment, à un moment donné, on a l'impression d'être invincible parce qu'on est dans la rue et parce que on est dans le réseau et parce qu'on a une place dans ce réseau-là, même si on sait que c'est pas forcément le bon endroit?
La réponse est dans le début de la question. Le groupe exerce une pression, c'est difficile déjà quand tout le monde Quand tout le monde va à l'ouest, c'est difficile de dire non, non, je vais à l'est tout seul. Et j'ai pris du temps quand même pour avoir la force de dire non à la pression du groupe.
Asdine Zoghbi, vous avez connu ces années 80, un peu avant justement l'arrivée de Alix Kery. Et vous avez fait un film qui s'appelle « Ces jeunes qui tombent » pour parler de justement tous les jeunes que vous avez vus qui sont tombés les uns après les autres. C'était la fin de l'héroïne, que l'époque, voilà, début des années 90, de Kery James. Comment vous avez observé ça, cette période où les jeunes justement se sont perdus, et comment certains se sont sauvés?
Honnêtement, heureusement qu'il y avait à ce moment-là le rap, avec Ideal J, avec Accord Parfait, les Little, différents types, etc. Sinon, la catastrophe aurait été encore plus grande. Eux, ils avaient de quoi faire. C'est-à-dire, tant qu'ils avaient cette création, cette créativité, et ils pouvaient échapper à cette catastrophe qu'on a appelée la catastrophe invisible, avec cette héroïne qui s'est répandue sur tous nos quartiers. La deuxième chose, c'est qu'ils étaient un peu plus jeunes. Donc, ils avaient ce lieu qui était la MJC, comme une sorte de cocon, où ils pouvaient se retrouver, échanger. Et dans le film, d'ailleurs, j'ai sollicité Kery pour lire les lettres de détenus. Et en même temps, il habitait un quartier qui était totalement submergé par la drogue. C'était ce qu'on appelle la Cité Million ou le quartier de Calmette. Il habitait à deux pas de la MJC. Il voyait les gens se piquer à ciel ouvert, des jeunes qu'on connaissait, qui n'étaient pas plus mauvais que les autres, mais qui étaient tout simplement un peu plus vulnérables et victimes. Donc, après, dans le film, j'ai voulu aussi l'associer à ça, parce que qui mieux que Kery pouvait sensibiliser les gens? C'était une manière, effectivement, à travers la voix de Kery, de dire qu'ils étaient vraiment victimes et vulnérables. Et c'était des gens qui vivaient avec nous, autour de nous, au quotidien. Quand ils n'étaient pas en manque, c'était des gars adorables. Voilà. Ceci étant dit, comme je le dis dans le film, durant cette période noire, ça ne nous a pas empêché, ça n'a pas empêché d'autres jeunes de continuer à créer, à chanter, à dénoncer, etc. Et je me souviens même, on a fait un grand concert en plein air avec Kery. Même, il y avait une foule immense, même si c'était la panique, puisqu'il y avait quelqu'un qui avait sorti un flingue. Et du coup, tout le monde s'est éparpillé. Mais à l'époque, il y avait... Vous avez dit tout à l'heure le ghetto, etc. Ce que dénonce Kery, c'est vrai. Mais si je pouvais faire une comparaison, non pas entre les époques, à cette époque-là, il y avait beaucoup plus de solidarité, de liens d'amitié, ce qui n'est pas le cas durant les années qui ont suivi.
Kery James, vous parlez souvent de cet événement à la fin des années 90, vous perdez un ami, et là, vous perdez beaucoup d'illusions. Et vous décidez de...
Ouais, en fait,
oui, quelque chose qui va changer dans votre vie.
J'ai un ami qui a été assassiné, donc de manière très très violente, puisque son corps a été retrouvé, carbonisé, une balle dans la tête, tout ça. Et c'est vrai que j'ai toujours été un jusqu'au boutiste, et que donc déjà ça faisait plusieurs mois que j'étais conscient avant que ça arrive. Qu'on était sur la mauvaise voie, mais il fallait la force de dire non à la pression du groupe, et je l'avais pas à l'époque. Et quand c'est arrivé, je me suis retrouvé devant un choix simple, hein. Soit je restais dans la rue, ce qui impliquait de le venger et donc de tuer des gens, et de ou soit j'acceptais que c'était pas arrivé non plus, ça nous était pas arrivé pour rien. Et que on avait fait des choses aussi qui nous avaient amené à ça, et que j'acceptais de reconnaître qu'on s'était trompé et de prendre une toute autre voie. Et c'est le chemin qui était en réalité le chemin le plus courageux et le plus compliqué à prendre. Et c'est celui que j'ai choisi à ce moment-là, quoi.
Et vous avez dit le mot conscient. Souvent, on dit que vous faites du rap conscient. Ouais. Et on dit souvent aussi qu'il y en a de moins en moins. Et que vous êtes un des seuls.
Ouais, mais c'est tout à fait étonnant. Parce que quand je réfléchis à cette expression, en fait, avant, le rap n'avait pas besoin d'être qualifié de conscient. Car le rap était conscient de nature. Le rap qui avait besoin d'un qualificatif, c'était justement le rap dit de gangster qu'on appelait le gangster rap. On était obligé de le qualifier. Donc c'est un rap différent, c'est ce qu'on appelle le gangster rap. Et aujourd'hui, tellement il a pris, il a eu une emprise sur le rap et il a pris la place, il est devenu le rap normal et le mien est devenu maintenant le rap conscient. Alors que c'est le rap tel qu'il était à l'origine.
There have been many questions put to me why I refuse to be inducted into the United States Army. Especially, as some have pointed out, many have pointed out, when not taking the step I will lose so much. And I would like to say to those of the press and those of the people who think that I lost so much by not taking the step, I would like to say that I did not lose a thing up until this very moment. I haven't lost one thing. I have gained a lot. Number one,
ça c'est aussi un exemple fort de, à un moment, oser dire non. Ouais. C'est Mohamed Ali qui refuse l'armée, la guerre du Vietnam.
Ouais, j'ai eu l'occasion de rencontrer Khalila Ali, qui était son épouse à ce moment-là, qui nous a donné des détails sur la façon dont ça s'est passé. Et donc il dit non à la guerre du Vietnam et il lui retire son titre. Il risque la prison. Et donc je pense que c'est ce simple non qui le fait entrer dans l'histoire. Sinon il aurait été un grand boxeur, c'est tout. Comme Mike Tyson a été un grand boxeur.
Et pourquoi ce nom il est important pour vous?
Ben, ce nom est important parce que moi j'ai essayé de dire non à d'autres choses.
La guerre en Irak?
Oui, j'ai dit non à la guerre en Irak. Je dis non toujours à l'intervention en Syrie, en Libye. Mais surtout aussi, j'ai dit non à la facilité, quoi. Si j'avais fait un autre rap, si j'avais tenu un autre discours, je pense que j'aurais gagné plus d'argent, plus facilement. Mais je pense aussi que ma carrière aurait été beaucoup plus courte. Voilà.
Et la boxe, vous avez fait de la boxe?
Aussi, ouais, bien sûr. J'ai fait de la boxe. Je continue à en faire pour la forme aujourd'hui. Mais j'ai fait de la boxe aussi. Et ça a participé, contrairement à ce qu'on peut croire, quoi. Ça donne un sens de la discipline. Parce que j'en ai fait à peu près deux ans assez sérieusement. Je m'entraînais vraiment tous les soirs et tout. Puis il faut surveiller son poids, il faut faire attention à ce qu'on mange. Ça donne de la discipline, quoi.
Et aussi sur le ring, on est tout seul. On n'est plus
et
en
aussi,
groupe.
Ça enlève ce truc d'être toujours caché derrière le groupe. On sait vraiment ce qu'on vaut quand on monte sur le ring, ouais, c'est vrai.
L'écriture chez vous, elle vient d'où?
C'est du corps, peut-être, de mon corps. Il est très physique, ça c'est sûr. Et si je pourrais chercher une affiliation, je dirais que ça viendrait des peintres haïtiens, des peintres primitifs, où j'avais remarqué quelque chose qui m'avait frappé, leur manière de placer les images sur le tableau. Ils sont très malins, ces peintres-là. Au lieu de mettre le point de fuite au fond du tableau, ils l'ont mis dans le plexus de celui qui regarde. Ils ont changé complètement la chose, ce qui a tellement étourdi les professionnels de la peinture, les critiques d'art, qu'ils n'ont pas compris. Ils pensaient que qu'ils étaient naïfs, alors qu'ils ont, ils avaient juste changé le point de fuite. Ils l'ont pas mis au fond du tableau, mais dans le plexus de celui qui regarde. Donc, ce qui donne l'impression que tout est placé au premier plan et qu'ils ne savent pas faire. En fait, ils savent très bien faire. Au lieu de pénétrer ou d'inviter la personne à pénétrer dans le tableau, c'est le tableau qui pénètre en vous. Et c'est tout à fait cela pour moi, l'écriture. Il faut que j'arrive à pénétrer, à étourdir le lecteur, à lui faire oublier qu'il est en train de lire, à mettre de côté son esprit critique, le phagocyter même, l'enivrer d'odeur, de son, de goût, de couleur, jusqu'à ce qu'il laisse tomber sa garde et qu'il se retrouve dans l'univers que je propose.
C'est la voix de l'écrivain Dany Laferrière qui parle de l'écriture physique. Est-ce que l'écriture pour vous, c'est physique aussi? Est-ce que ça atteint le plexus?
C'est étonnant parce que Zdine m'a offert son livre que je n'ai pas, encore lu. C'est étonnant que vous le citiez. Oui, bien sûr que l'écriture a quelque chose de physique. Moi, je ne fais de la musique que pour aller toucher les tripes des gens, quoi. Sinon, je ne vois pas où est l'intérêt, quoi.
On va écouter un premier morceau. Mm-hmm. La rue, ça fait mal. Qui est sur le dernier disque.
Un morceau très important que j'ai dédié à tous ceux qu'on a connus et qui ont été assassinés. Et qui est un morceau qui essaie de rappeler que contrairement à ce que peuvent dire certains... Un rappeur, la rue, il n'y a rien de glamour à être dans la rue et dans l'illicite, voilà.
Et c'est Nicolas Segui qui est au clavier.
Je suis Kerry James, vous écoutez Une vie d'artiste d'Aurélie Charron sur France Culture.
J'écris dans les larmes. Mes frères me manquent, j'ai vécu des drames. Je viens de la rue, je ne fais pas semblant. J'ai fait des que trucs, on ne fait pas sans gants. Qu'est-ce que tu croyais? Mes yeux noirs, qu'est-ce que tu voyais? Ils ont tué mon pote, ils ont brûlé son corps. La souffrance que je porte défie ton hardcore. Je ne suis pas un gangster de studio. 6 pieds sous terre, tombé de rideau. Violence pyromane, on retrouve des corps sans vie. C'est pas avec des larmes que tu éteins l'incendie. La rue ça fait mal. La rue ça fait mal. La rue ça fait mal, on s'y est habitué, mais ici rien n'est normal. La rue ça fait mal. La rue ça fait mal. La rue ça fait mal, on s'y est habitué, pourtant rien n'y est normal. T'écris dans l'encre, j'écris dans les larmes. Tu te vois dans un miroir, je me vois dans une lame. Le cœur trop lourd pour croire au mirage. La tête trop pleine pour la voir dans les nuages. Qu'est-ce que tu croyais? Dans tes yeux noirs, j'ai su ce que je voyais. Ils ont tué ton pote et tu le cherches encore. T'accepteras l'évidence qu'une fois devant son corps. Je ne suis pas un gangster de studio.
ses pieds sous terre tombaient de rideaux. Violence pyromane, on retrouve des corps sans vie. C'est pas avec des larmes que tu éteins l'incendie.
Là où ça fait mal, là où ça fait mal, là où ça fait mal, on s'y est habitué, mais ici rien n'est normal. Là où ça fait mal, là où ça fait mal, là où ça fait mal, on s'y est habitué, mais ici rien n'est normal. Tous ceux qu'on approche ou un pote qui s'est fait buter, à toutes les mères qui se sentent comme amputées, à tous les pères qui ne pleurent qu'une fois isolés, qu'attendent le cimetière meurtri, inconsolé, élever un gosse pour ensuite l'enterrer, la main sur la crosse, pense-y quand tu vas tirer. La route fait du charme, tu trouves qu'elle a de l'allure. Le drame c'est que tu confonds le sucre et le cyanure. Ah ouais, ça fait mal, ah ouais, ça fait mal. Là où ça fait mal, on s'y est habitué, mais ici rien n'est normal. Là où ça fait mal, là où ça fait mal, là où ça fait mal, on s'y est habitué, pourtant rien n'y est normal.
Dans un très grand nombre de petits textes que j'écris, il y a des personnages que certains considèrent comme étant fous. Moi, ce qui m'intéresse en eux, c'est justement l'expression de cette singularité, parfois en résistance face à des pressions, je dirais, collectives, parfois aussi dans un besoin d'adéquation avec la communauté. Moi, la question qui me tourmente, c'est la question de la construction de l'individualité. Comment est-ce qu'on se construit? On peut se construire en contre, on peut se construire en pour aussi. Et comment à la fois être d'un lieu et être soi-même, ne pas être prisonnier de ce lieu. C'est-à-dire moi, c'est cette question qui m'interpelle. Comment éviter à la fois le ghetto et le travestissement? Comment n'être pas dans le mensonge, se projeter en dehors de toute origine, en dehors de toute histoire? Ça, c'est pour moi le mensonge, le travestissement. Et comment en même temps ne pas être prisonnier de l'origine et de l'histoire. Donc comment pouvoir dire « je » dans une certaine tranquillité par rapport à la communauté à laquelle nous appartenons.
C'est à nouveau la voix de Lionel Trouillot. Est-ce que vous avez trouvé la solution, Kerry James, pour dire « je » sans être prisonnier de son lieu d'origine, mais sans être dans le mensonge non plus, et dans le travestissement ?
Non, mais déjà, encore un extrait hyper intéressant. En l'écoutant, je me suis dit que sans l'avoir pensé, comme elle arrive très bien à l'exprimer, c'est vraiment ce que j'ai cherché à faire. Et à essayer d'être... je pense qu'en fait, c'est... Il faut essayer d'être juste, en fait. Et c'est vrai que tenir la position du juste milieu, c'est la position qui est la plus difficile à tenir. Et que tout le monde est organisé de sorte à nous pousser vers l'extrémisme ou le laxisme.
Est-ce que vous avez toujours les quatre visages dont on parlait quand on parlait de vous, c'est-à-dire il y a Alix, l'enfant d'Orly, ouais. Il y a Kerry, le rappeur, James, ouais. Qui est plutôt le plus sombre, l'homme de la rue, ouais. Puis il y a Ali, qui est le spirituel.
Oui, ils existent toujours. Après, ils sont... par exemple, en ce moment, Kerry prend beaucoup de place, parce qu'il y a le disque, la pièce de théâtre, le film, donc il prend beaucoup de place. Il a pris l'avantage un peu sur les autres, mais je pense que ce sera vrai jusqu'à ma mort.
Il y a un morceau qui s'appelle Soledad et vous parlez souvent de mélancolie. Mm-hmm. Vous l'avez toujours collé à la peau, cette mélancolie?
Une des phrases qui est revenue le plus souvent, c'était « La rue a fait de moi Kerry James le mélancolique ». Mais j'ai constaté que ça fait à peu près 2-3 albums que... Ça fait 2 albums en tout cas que je ne cite plus cette phrase. et que je parle plus de mélancolie et de solitude. Et je pense que ça vient des enfants, en fait. Et qu'une fois qu'on a des enfants, je veux dire, un enfant vous fait oublier votre solitude avec un sourire, quoi. C'est difficile de se sentir seul quand on a des enfants, surtout des enfants en bas âge, quoi. Et je pense qu'ils m'ont soigné, que mes enfants m'ont soigné de cette mélancolie.
Mais est-ce qu'ils ont éloigné James ?
Ouais, aussi, évidemment, parce que des enfants, ça implique aussi d'avoir des responsabilités et ça nous met face à nous-mêmes. Mais James, je pense, existera jusqu'au dernier moment. Hein. Et que c'est très dangereux, justement, de croire qu'il n'existe plus.
Oh, ma chanson dans tous les sens. Banlieusard de Kerry James. Ah non, je peux pas la chanter. Non, c'est impossible. Je suis trop nulle. Non, je peux pas la chanter. Et il y a une phrase que j'aime beaucoup dedans, c'est « Je veux pas brûler des voitures, je veux en construire et puis en vendre. » Peu importe à quel moment, si je l'écoute, après j'ai envie de faire plein de choses, de déplacer des montagnes.
On n'est pas condamné à l'échec. Voilà le chant des combattants, banlieusards et fiers de l'être. J'ai écrit l'hymne des battants, ceux qui ne font pas toujours ce qu'on attend. Deux, qui ne disent pas toujours ce que l'on veut entendre. Deux, parce que la vie est un combat. Pour ceux d'en haut comme pour ceux d'en bas. Si t'acceptes pas ça, c'est que t'es qu'un lâche. Lève-toi et marche, c'est un pour les miens. Arabes et noirs pour la plupart. Et pour mes babtous, les prolétaires et banlieusards. Le deux, ce sera pour ceux qui rêvent d'une France unifiée. Car à ce jour, il y a de France qui peut le nier. Et moi, je suis de la deuxième France, celle de l'insécurité, des terroristes potentiels, des assistés. C'est ce qu'ils attendent de nous. Mais j'ai d'autres projets, qu'ils retiennent ça. Je suis pas une victime, mais un soldat, regarde-moi. Je suis noir et fier de l'être. Je manie la langue de Molière. Je maîtrise les lettres. Français parce que la France a colonisé mes ancêtres. Mais mon esprit est libre et mon Afrique n'a aucune dette. Je suis parti de loin.
Les banlieusards, c'est un morceau important, Kerry James.
Ouais. Il fait partie des trois morceaux que je citerai si on me demandait de résumer ma carrière en trois titres. Je dirais Lettre à la République, Constat amer et banlieusard. Ouais. Mais ça me fait toujours bizarre d'entendre des gens dire un morceau que j'écoutais dans mon adolescence. Ça veut dire que banlieusard, c'est loin, quoi, déjà. Parce que c'était dans son adolescence. Alors que dire d'idéalgie qui... Non, ça me fait rendre compte que ça fait longtemps que je suis là, quoi. Même si c'est un morceau que j'interprète toujours, hein, dans tous mes concerts. La dernière fois que je l'ai interprété sur scène, peut-être pas la dernière fois, mais ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps de me dire, mais ça fait combien de fois que tu interprètes ce morceau sur scène?
Ouais. Et cette jeune fille qui parlait, elle a 20 ans à peu près, donc son adolescence, c'était en effet il y a quelques années. Et c'est vrai que c'est assez fou l'importance que ça a eu, ces morceaux-là, dans beaucoup d'adolescence, donc pour beaucoup de jeunes gens de différents milieux qui citent vos paroles ou qui citent une phrase comme elle l'a fait. Et je pensais vous leur donner des mots à ces jeunes-là, mais vous avez aussi envie de leur donner des outils.
Ouais.
Et de plus en plus, et je pensais à l'association ACES.
Ouais.
Parce que c'était après banlieusard, non?
C'est ça, c'est une association que j'ai fondée après avoir écrit cette chanson banlieusard, ACES, comme apprendre, comprendre, entreprendre et servir. C'est des mots qui sont cités dans la chanson, justement. Et donc, on fait du soutien scolaire et du financement d'études supérieures aussi. Et en fait, j'aime pas dire ça parce que c'est faux. Mais des fois, je suis tenté de dire c'est la concrétisation dans le réel de la chanson banlieusard, mais c'est faux. Parce que la chanson banlieusard fait partie du réel et elle a eu un impact réel considérable sur les gens, plus même, je pense, que l'action de la CES. Donc, je ne saurais pas quel terme utiliser. Azdine peut-être nous en parlera.
Azdine, vous faites partie du jury?
Oui, je fais partie du jury et j'ai été vraiment très fier d'en faire partie parce que, comme vous le disiez tout à l'heure, c'était une occasion extraordinaire d'abord d'arrêter de stigmatiser la banlieue. Banlieusard est fier de l'être. Au niveau de la symbolique, il a raison, Kerry. Ça a réhabilité une banlieue, ça a donné de la fierté aux gens. Alors que le regard du média de l'extérieur, ce n'était que trafic, ce n'était que violence, ce n'était que... Et puis subitement, cette chanson, il est vrai, à chaque fois que Kerry la chante, tout le public la reprend en cœur. Après, il s'arrête, il laisse le public chanter. Quand il a fait cette rupture avec ce qu'on appelait le rap gangster, etc., il a dit stop avec ce rap qui fait du mal à nos petits frères et à nos petites sœurs. Et là, on s'est sentis tous concernés, tous derrière lui. Tant qu'il a fait ces choses-là, j'étais en rupture, moi aussi. Et après, il a repris ça. Et on s'est dit, c'est le moment de créer cette solidarité collective, vraiment pour l'aider à ce qui arrive. Et c'était une locomotive. On a vidé, je dirais, les banlieues de cet engagement politique. Et il y a un bonhomme qui vient réinjecter cet engagement politique avec « Nous sommes fiers », etc., etc.
Il y a des questions très actuelles dans certaines chansons, comme dans « Lettre à la République ». Il y a cette question, est-ce que les Français ont les dirigeants qu'ils méritent? C'est une question qu'on va beaucoup
marrant,
se poser.
C'est marrant. Vous connaissez bien votre sujet. Parce que justement là, on a, sur la pièce de théâtre, on a répété hier. Et la pièce que j'écris, je pense que c'est un résumé de Banlieusard, Lettre à la République et Constat amer. Et il y a un moment où l'acteur qui me fait face, il va réciter le texte de Lettre à la République. Et hier, on s'est dit que peut-être on terminerait sur cette phrase-là qui est « Est-ce que les Français ont les dirigeants qu'ils méritent ?» Et que en fait, la question « L'État est-il seul responsable de la situation actuelle des banlieues ?» nous amène en réalité à cette question-là et que c'est peut-être la vraie question. Est-ce que les Français ont les dirigeants qu'ils méritent? Voilà.
Et la première question, c'est la question de la pièce de théâtre.
Ouais.
Vous jouez ces deux avocats, donc c'est comme à la petite conférence, c'est une joute verbale où l'un défend une position, l'autre la position inverse. Et vous défendez la position qui est celle de dire non, l'État n'est pas le seul responsable de la situation actuelle des banlieues.
J'ai écrit les plaidoiries pour les mettre en scène au théâtre. Donc, je suis pas le metteur en scène, c'est Jean-Pierre Barraud. Et donc, on met en scène deux élèves avocats qui arrivent justement en finale du concours d'éloquence de la petite conférence. Et la question qui leur est posée est la suivante. L'État est-il seul responsable de la situation actuelle des banlieues? Et un doit répondre oui et l'autre non. Donc, moi, je réponds non. Et l'acteur qui me fait face, qui s'appelle Yannick Landrin, lui répond oui, il fustige l'État. C'est une joute verbale, effectivement.
Vous liriez le tout début de votre rôle à vous? Enfin, oui. Vous le savez par cœur, vous êtes en train de répéter. Ouais.
La pièce commence et il prend la parole et dit donc le sujet qui nous concerne est, et je lui coupe la parole et je dis émancipation. Émancipation, mon discours sera celui de l'émancipation et de la responsabilisation. L'État est-il seul responsable de la situation actuelle des banlieues? Mesdames et messieurs les jurés, il me semble que la question qui nous est posée en implique deux autres plus larges, plus universelles. La première, est-ce que le fait d'être gouverné exempte impérativement les citoyens de toute responsabilité? Non. La simple présence de gouvernants n'exonère pas de fait les gouvernés de toute responsabilité. Sauf pour celui qui prétend considérer les citoyens comme des enfants et qui souhaite attribuer la parenté de chacun de ses enfants aux gouvernants. Mais la banlieue n'est pas une immense crèche à ciel ouvert peuplée de nouveau-nés. Il y a en banlieue, comme partout en France, des gens désireux de prendre pleinement part à leur propre histoire et à celle du pays. Des gens qui ne vivent pas nécessairement en réaction à... Des gens qui veulent se sentir responsables de leurs choix, responsables d'eux-mêmes.
Et voilà, vous êtes devenu avocat, Kerry James, enfin.
Ben, j'espère l'avoir toujours été. Si c'est bien écrit, le but est que je parle et que le spectateur écoute et dit « c'est lui qui a raison ». Qu'ensuite ils prennent la parole et qu'ils l'écoutent et qu'ils disent « non, c'est lui qui a raison ». Ainsi de suite. Et que les gens se rendent compte qu'il y a quelque chose entre le noir et le blanc qu'on appelle le gris.
Est-ce qu'on peut écouter, puisque en studio on a Nicolas Segui au clavier, ouais. Vivre ou mourir ensemble, que vous avez écrit après le 13 novembre?
C'est ça. Écoutons-le.
Naturel d'avoir peur, de là naît le courage. Comment rêver en couleur quand le futur n'annonce que l'orage? Le bonheur que l'on bricole disparaît dans la grisaille. Que nos espoirs s'isolent de la folie qui les cisaille. Ensanglantés d'amertume, des journées de ténèbres, aux aurores teintées de brume, exhument des rancunes funèbres. Une chorale de sanglots chantonne nos afflictions. Transporte nos fardeaux, fredonne nos désolations. La haine nous fait du pied, nous propose une danse mortelle et rythmée au tempo de nos vengeances. Si les rêves de paix sommeillent certainement en chacun, on peut perdre son humanité dans un labyrinthe de chagrin. Comment raisonner face aux soldats de la démence? La peur nous fera prisonniers des ennemis de la clémence, architectes de la destruction, maçons de l'horreur, cultivateurs d'abominations qui confondent beauté et laideur, mémoire et aigreur, désir de justice et fureur, tirent sur la foule des balles aussi aveugles que leur cœur, plongés dans l'excès, noyés dans la vanité. Les plus ignorants se croient l'élite de l'humanité. Les folies de la colère nous révèlent à nous-mêmes. On sait ce que l'on tolère, qu'une fois face à l'extrême, un seul tonnerre de violence assourdit nos beaux discours et nous voilà prêts à acheter la France dans la guerre civile d'Éric Zemmour. C'est le jeu de la division, du commerce, de la terreur. Comment faire sombrer la nation dans la déraison puis l'horreur? Des chefs d'orchestre sordides instrumentalisent nos peines de piètres cupides qui détestent plus qu'ils n'aiment. Ceux qui désirent l'affrontement souvent ignorent sa réalité. Leur arrogance n'a d'égal que leur lâcheté. Ils soufflent sur des braises, planqués dans leur confort. Nous chantent la Marseillaise tant que la mort reste inodore. Ils pensent la guerre, mais ne porteront jamais le treillis. Quand on manquera de cimetière, ils fuiront le pays, le laissant livrer à lui-même, à feu et à sang. Derrière les couleurs du drapeau se cachent ces ennemis de la nation, semeurs de troubles, fourbes, névrosés, cracheurs de venin, au cœur sclérosé, racistes décomplexés qui conceptualisent la haine. Mais même les nazis avaient leur propre intellectuel. Tirons des leçons du passé, il y a même pas 100 ans, l'impensable est devenu vérité. Leurs paroles mettent des mots sur ce que leur cœur souhaite en secret. Ils ne se sentiront apaisés que lorsque les musulmans seront traqués, lorsque les musulmans seront parqués, persécutés pour leur foi, lorsque les musulmans seront chassés, exécutés pour leur choix. Ils veulent nous plonger dans une guerre totale sans lendemain. En cela, les terroristes et eux poursuivent le même dessein. À bout de souffle, la France est en apnée. Maintenant on se rend compte à quel point précieuse est la paix. Faut-il perdre un bienfait pour en apprécier la valeur? Faut-il s'approcher du feu pour en constater la chaleur? Dans ce monde globalisé, Bagdad n'est plus si loin. Et nous n'avons qu'effleuré l'horreur de leur quotidien. Brutal est le réveil de nos années d'insouciance. Combien de peuples s'éveillent chaque jour sous l'état d'urgence, empli de compassion. Quand la terreur nous assiège, on a d'autres préoccupations que de jouir de nos privilèges. De la Libye à la Syrie, ils reproduisent les mêmes erreurs. Leur politique extérieure nous fait saigner de l'intérieur. Expansion guerrière, à peine maquillée. Ambition pécuniaire, sous couvert d'humanité. Condamnation arbitraire, puis silence injustifié. Utilisation vulgaire du concept dit de liberté. Pour la survie des vôtres, est-ce que la mort des autres est vitale? Des frappes chirurgicales à bon sur un hôpital. Comment condamner ici tout en finançant?
sommes otages de vos jeux de pouvoir que vous faites passer pour des combats. Du sang sur les mains, du pétrole dans la rétine, les prétendus droits humains. Chaque jour ils les piétinent, soutiennent ceux qui les combattent, puis combattent ceux qu'ils soutiennent. Démagogues, bureaucrates, politiques schizophrènes.
La haine nous colle comme une ombre. Depuis que les faucons tirent sur les colombes, j'essaie encore de me montrer aimant. Un saint d'esprit gouverné par des démons. On n'a plus pied dans cette mer de sang. Nos désirs de paix nagent à contre-courant. La pluie a beau tomber sur les cœurs asséchés, on voit rarement fleurir les rochers. Chacune de nos nuits attend son soleil. Faut-il que l'on meure pour quitter le sommeil? On n'a plus le choix, il me semble. On doit vivre ou mourir ensemble.
Kerry James, est-ce que c'est facile d'imaginer l'avenir de vos enfants en France aujourd'hui?
Non, c'est difficile. C'est difficile, mais pour l'instant, j'y suis et j'y reste. J'essaie de faire en sorte que ce soit possible. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup de craintes. C'était pas évident, mais j'ai fait le choix de rester pour l'instant.
Mais vous êtes posé la question?
Je me suis posé la question.
Asdine,
Je pense qu'il ne peut pas faire autrement. Tout simplement parce qu'il a des projets en route.
Puis vous ne pouvez pas laisser Asdine tout seul avec Assès.
Exactement,
tous ces
des
jeunes
projets
gens.
D'espoir par rapport aux jeunes. Et puis, vraiment encourager les futurs ambassadeurs de la banlieue. Donc je dis à Kerry, fais attention, n'engage pas des choses et ne nous laisse pas seuls sur ces projets.
Merci.
Tout simplement, voilà.
À partir du 28 décembre 1977, des Abîmes, morceau qui dit « Maintenant tu sais d'où je viens, qui je suis et où je vais, et pourquoi mes textes de sagesse sont imprégnés ». Donc vous allez rester avec nous, Kerry James. Vous n'avez plus le droit de partir. Obligé de rester en France et de continuer à parler, à écrire.
Ouais. En tout cas, merci.
Merci à vous.
On peut le dire maintenant?
Ouais, on peut le dire.
Alors, je vais vous dire juste quelque chose, c'est que je déteste la promo. Non mais vraiment, c'est une souffrance pour moi de faire de la promo. Et je me disais avant d'arriver, oh là là, qu'est-ce que ça va être. Et je me rends compte qu'en fait, c'est pas la promo que je déteste. En fait, je déteste avoir affaire à des gens qui ne maîtrisent pas leur sujet, qui n'ont pas préparé leur sujet et dont je n'apprends rien en fait. Et là, c'était pas le cas aujourd'hui. Et on voudrait que ça dure encore plus longtemps. Et je tenais à le dire.
Merci beaucoup.
Merci.
Avant la nuit, je dis merci à Inès De Bruyne pour la préparation, à Delphine Lemaire à la réalisation et à la technique. Merci à Cédric Châtelut et Jean-Baptiste Etché-Parbord. Merci.